Henry James, un portrait de femme. Dernier chapitre, chapitre 55. Il lui avait dit le premier soir de sa venue à Garden Court qu'à condition d'assez souffrir, elle pourrait un jour voir le fantôme dont la vieille demeure était dûment pourvue. Sans doute avait-elle rempli la condition requise, car le lendemain matin, dans le petit jour froid, elle vit qu'un esprit se tenait près de son lit. Elle s'était couchée sans se déshabiller, dans la conviction que Ralph ne passerait pas la nuit. Elle ne ressentait aucun besoin de sommeil, elle attendait, et cette attente avait de quoi la tenir en éveil. Mais elle avait fermé les yeux, escomptant que vers la fin de la nuit, elle allait entendre frapper à sa porte. Elle n'entendit pas frapper, mais à l'heure où l'ombre commençait à se teinter de gris, elle se redressa aussi brusquement que si elle avait distingué un appel. Il lui sembla pendant un instant que Ralph était debout près d'elle, ombre confuse, errant dans le vague de la chambre. Elle regarda fixement. Elle reconnut son visage pâle, ses yeux tendres, puis elle vit qu'il n'y avait rien. Elle n'eut pas peur, mais éprouva seulement une certitude. Cette conviction la poussa hors de sa chambre, au long des couloirs obscurs et d'un escalier de chêne qui luisait dans le demi-jour du vestibule. À la porte de Ralph, elle s'arrêta un moment, l'oreille tendue, mais elle n'entendit que le silence. Elle ouvrit la porte, d'un geste aussi doux que pour soulever un voile sur un visage mort, et vit Mrs. Touchett assise immobile et droite près du lit de son fils, avec une de ses mains dans la sienne. Le médecin de l'autre côté tenait le poignet du pauvre Ralph entre ses doigts professionnels. Les deux gardes se tenaient au pied du lit. Mrs. Touchett ne fit aucune attention à Isabelle, mais le docteur lui adressa un regard significatif, puis plaça doucement la main de Ralph à sa place le long du corps. L'infirmière tourna aussi les yeux vers Isabelle, et personne n'ouvrit la bouche, mais Isabelle ne regarda que ce qu'elle était venue voir. Le visage de Ralph était plus beau qu'il ne l'avait jamais été de son vivant, et marquait une étrange ressemblance avec celui de son père qu'elle avait vu 6 ans plus tôt, à la même place. Elle alla vers sa tante et passa un bras autour d'elle. Mrs. Touchett, qui, d'ordinaire, n'attirait pas plus qu'elle ne goûtait les caresses, se soumit un moment à celle-là et fit mine même de se lever pour la recevoir. Elle restait raide et gardait les yeux secs. Son pâle visage était d'une acuité terrible. « Chère tante Lydie, » murmura Isabelle. « Remerciez Dieu de n'avoir pas d'enfant, » dit Mrs. Touchett en se dégageant. 3 jours plus tard, un nombre considérable de gens trouvèrent, en pleine saison de Londres, le temps de prendre un train matinal pour une station paisible du Berkshire, et de passer une demi-heure dans une petite église grise située à distance raisonnable du chemin de fer. C'est dans le cimetière verdoyant de cet édifice que Mrs. Touchett confia son fils à la terre. Elle se tint au bord de la fosse, avec Isabelle à son côté. Le fossoyeur lui-même ne prenait pas à la scène un intérêt plus pratique que Mrs. Touchett. L'heure était solennelle, mais sans rigueur et sans ostentation. Il y avait même une certaine douceur dans l'aspect des choses. Le temps avait tourné au beau. Le jour, un des derniers du traître mois de mai, était chaud et sans vent, et l'air avait un éclat d'aubépine et de merles en liesse. Si l'on ne pouvait songer sans tristesse au pauvre Touchett, cette tristesse n'était pas accablante puisque la mort pour lui avait été sans violence. Il mourait depuis si longtemps, il était si prêt, tout était si attendu et si bien réglé. Il y avait des larmes dans les yeux d'Isabelle, mais ce n'étaient pas des larmes aveuglantes. Elles ne l'empêchaient pas de voir la beauté du jour, la splendeur de la nature, la douceur du vieux cimetière anglais, les têtes inclinées de bons amis. Il y avait là Lord Warburton, et un groupe d'hommes tous inconnus d'Isabelle, dont elle sut plus tard que la plupart avaient à voir avec la banque. Il y avait aussi d'autres personnes qu'elle connaissait, Miss Tackpole entre autres, avec l'honnête Mr. Bantling à son côté, et Caspar Goodwood, qui dressait la tête plus haut que ses voisins, et l'inclinait un peu moins. Pendant une bonne partie du temps, Isabelle sentit sur elle les yeux de Mr. Goodwood. Il la regardait plus fixement qu'il ne le faisait d'ordinaire en public, pendant que les autres assistants baissaient les yeux sur la terre du cimetière. Isabelle ne lui laissa point deviner qu'elle le voyait, et ne pensa à lui que pour s'étonner qu'il fût encore en Angleterre. Se souvenant du peu de goût qu'il nourrissait pour le pays, elle avait cru, tout naturellement, qu'il était parti, après avoir ramené Ralph à Garden Court. Mais il était encore là, nettement là, et quelque chose dans son attitude semblait dire qu'il n'y était pas sans une intention complexe. Isabelle ne voulait pas rencontrer ses yeux, Malgré l'indiscutable sympathie qu'elle y aurait pu lire, cette présence la gênait un peu. Il disparut quand se dispersa le petit groupe des assistants, et la seule personne qui vint parler à notre héroïne, alors que plusieurs allaient à Mrs. Touchett, fut Henriette Stackpole. Henriette avait pleuré. Ralph avait dit à sa cousine espérer qu'elle resterait à Garden Court, et elle ne fit pas de préparatifs immédiats de départ. Elle se disait que c'était la plus banale des charités que de rester un peu avec sa tante. Il était heureux pour elle d'avoir trouvé une si bonne formule, faute de laquelle elle se fut trouvée bien empruntée. Sa mission était accomplie, elle avait fait ce pourquoi elle avait quitté son mari. Il y avait, dans une ville étrangère, un mari qui comptait les jours de son absence. Il fallait un motif excellent pour le laisser seul. Que ce ne fût pas le meilleur des maris ne changeait rien à l'affaire. Le fait même du mariage impliquait certaines obligations, totalement indépendantes de la somme de plaisir qu'on en pouvait tirer. Isabelle pensait le moins possible à son mari, mais maintenant qu'elle était au loin et soustraite à l'influence de Rome, elle ne songeait pas à la ville sans une sorte de frisson intérieur. L'image seule l'englaçait et la poussait à se blottir au plus profond de l'ombre de Garden Court. Elle vivait au jour le jour, balançait, fermait les yeux, s'efforçait de ne pas penser. Elle savait qu'il fallait prendre une décision, et ne décidait rien. Sa venue même n'était pas une décision. En cette circonstance, elle n'avait fait qu'un pas. Osmond ne donnait pas signe de vie, et n'en donnerait évidemment aucun, s'en remettant à elle de toute initiative. De penser, elle ne savait rien, ce qui n'était pas surprenant, son père ayant dû lui défendre d'écrire. Mrs. Touchett acceptait la compagnie de sa nièce sans lui offrir aucune aide. Elle considérait, sans enthousiasme bien qu'avec une lucidité parfaite, les nouvelles contingences de sa propre situation. Mrs. Touchett n'était pas optimiste, mais s'entendait à tirer certains réconforts des circonstances les plus pénibles. Elle réfléchissait en l'espèce que, somme toute, bien des événements qui touchaient les autres l'épargnaient. La mort était détestable, mais en ce cas c'était la mort de son fils et non la sienne. Elle ne s'était jamais flattée que la sienne dût être regrettable pour quiconque d'autre que pour Mrs. Touchett. Elle était mieux pourvue que le pauvre Ralph, qui avait laissé derrière lui toutes les commodités et même toutes les garanties de la vie, puisque le pire effet de la mort, selon Mrs. Touchett, était de vous exposer à être exploité. Quant à elle, elle restait sur les lieux et rien ne valait cela. Elle informa très minutieusement Isabelle, le soir même de l'enterrement, de certaines dispositions testamentaires de Ralph. Il lui avait tout dit, l'avait consulté sur tout. Il ne lui laissait pas d'argent, dont elle n'avait aucun besoin. Il lui laissait le mobilier de Garden Court, à l'exclusion des tableaux et des livres, et l'usage pendant un an du domaine qui serait ensuite mis en vente. Le produit de cette vente constituerait une dotation pour un hôpital d'indigents souffrant du même mal qu'il avait emporté. Lord Warburton était désigné comme exécuteur testamentaire pour ce qui avait trait à cette partie de l'héritage. Le reste de la fortune, retiré de la banque, allait à diverses personnes, dont ses cousins du Vermont pour qui son père s'était déjà montré si généreux, puis s'éparpillait en nombre de petits legs. « Il y en a de bien curieux, » expliqua Mrs. Touchett, « et il laisse des sommes considérables à des personnes dont je n'ai pas même entendu parler. Il m'a donné sa liste, et quand je lui ai demandé de qui il s'agissait, il m'a dit que c'était des gens qui, en diverses circonstances, avaient paru lui témoigner de la sympathie. Il a jugé sans doute que vous ne l'aimiez guère, puisqu'il ne vous laisse pas un sou. » Il était d'avis que vous aviez été royalement traité par son père, ce qui est aussi mon opinion, je l'avoue, mais sans s'en être jamais plaint, croyez-le. Les tableaux seront dispersés. Il les a distribués un à un comme autant de souvenirs. Le plus beau de la collection est pour Lord Warburton. Et sa bibliothèque, que croyez-vous qu'il en ait fait? On dirait une gageure. Il la laisse à votre ami, Miss Stackpole, en reconnaissance de ses services à la littérature. Entend-il par là de l'avoir ramené de Rome? Est-ce un service rendu à la littérature? La bibliothèque comporte un nombre important d'ouvrages rares et précieux, et comme elle ne peut les emporter de par le monde dans sa malle, il lui conseille de les vendre aux enchères. Elle les vendra évidemment chez Christie, et le produit lui servira à lancer un journal. Sera-ce un service rendu à la littérature ? Isabelle se dispensa de répondre à cette question qui débordait le petit interrogatoire auquel elle avait jugé nécessaire de se soumettre à son arrivée. Au surplus, elle ne s'était jamais moins qu'en ses jours intéressée à la littérature, comme elle s'en apercevait lorsqu'elle prenait à l'occasion, sur un rayon, l'un des volumes rares et précieux dont venait de parler Mrs. Touchett. Elle ne se trouvait pas en état de lire, jamais elle n'avait si mal commandé à son attention. Un après-midi, une semaine environ après la cérémonie du cimetière, Elle s'évertuait à la fixer pendant une heure dans la bibliothèque, mais ses yeux se portaient souvent du livre qu'elle tenait à la main vers la fenêtre ouverte qui donnait sur la longue avenue. C'est ainsi qu'elle vit s'approcher de la porte un modeste véhicule, dont Lord Warburton, assis dans une pose assez inconfortable, occupait un coin. Il se pliait toujours aux règles de la plus stricte courtoisie, et il n'y avait donc rien d'étonnant à ce que, vu les circonstances, il eût pris la peine de venir de Londres faire une visite à Mrs. Tutchett. Car c'était évidemment Mrs. Tutchett qu'il venait voir, et non pas Mrs. Osmond. Désireuse de se prouver le bien fondé de cette affirmation, Isabelle sortit de la maison pour se promener dans le parc. Depuis son arrivée à Garden Court, elle n'était pas beaucoup sortie, car le temps n'invitait guère à visiter les jardins. Mais ce jour-là, la soirée était belle, et notre amie fut d'abord heureuse de s'être décidée à franchir les portes de la maison. La théorie dont je parlais tout à l'heure, pour plausible qu'elle fût, ne la satisfaisait pas absolument, et qui l'eût vue errer de droite et de gauche, l'eût accusée d'avoir la conscience troublée. Elle ne se sentit pas apaisée quand, au bout d'un quart d'heure, en vue de la maison, elle aperçut, à la porte d'entrée, Mrs. Tutchett en compagnie de son visiteur. Mrs. Tutchett avait évidemment proposé à Lord Warburton de se mettre à la recherche de sa nièce. Isabelle ne se sentait pas d'humeur sociable et se fut volontiers cachée derrière un des gros arbres d'alentour. Mais on l'avait vue et il ne lui restait plus qu'à s'approcher. Comme la pelouse de Garden Court était très vaste, il lui fallut quelque temps pour la traverser et elle s'aperçut en s'avançant qu'aux côtés de son hôtesse, Lord Warburton gardait, non sans quelque raideur, les mains derrière son dos et les yeux à terre. Les deux promeneurs restaient silencieux pour l'instant, mais le regard perçant que Mrs. Tutchett dirigeait vers Isabelle avait une expression visible, même de loin. Il semblait dire, avec une netteté tranchante, « Voilà le gentilhomme éminemment recommandable que vous auriez pu épouser !» Mais lorsque Lord Warburton leva la tête, ses yeux à lui parlaient un tout autre langage. « La situation est un peu gênante, disait-il, et je m'en remets à vous de me la faciliter. » Il était grave, très correct, et pour la première fois depuis qu'Isabelle le connaissait, la salua sans sourire. Même en ses jours de détresse, il était toujours entré en matière avec un sourire. Il paraissait fort gêné. Lord Warburton a eu l'amabilité de venir me voir, expliqua Mrs. Tutchett. Il m'a dit ignorer que vous fussiez encore ici. Je sais qu'il est de vos vieux amis, et quand j'ai vu que vous n'étiez pas dans la maison, je l'ai fait sortir à votre recherche. J'ai vu que j'avais un bon train à 6h40 qui me ramènerait à temps pour dîner, expliqua un peu intempestivement Lord Warburton. J'ai été bien heureux d'apprendre que vous n'étiez pas parti. Je ne suis pas ici pour longtemps, fit Isabelle, avec une certaine vivacité. Je le suppose, bien que j'espère que vous resterez encore quelques semaines. Vous êtes venu en Angleterre plutôt que vous n'y comptiez. Oui, je suis venu ici inopinément. Mrs. Tutchett se détourna, comme si elle eût pris un soudain intérêt à l'état de la pelouse, qui manquait en effet de soins, tandis que Lord Warburton paraissait hésiter. Isabelle comprit qu'il avait été sur le point de s'enquérir, de façon assez vague, de son mari, et s'était ravisée. Il avait une mine d'imperturbable gravité, soit qu'il le jugeât saillant dans une maison sur laquelle venait de passer la mort, soit que, pour des raisons plus personnelles, il fût très heureux d'avoir le prétexte d'un motif plus général et de pouvoir s'en prévaloir. Isabelle songeait à tout cela. Ce n'était pas que son visage fût triste, car la tristesse était autre chose. Il manquait seulement d'expression. « Mes sœurs auraient été ravies de m'accompagner si elles avaient su que vous fussiez encore ici et que vous consentissiez à les voir, » reprit Lord Warburton. « Laissez-les venir vous voir avant votre départ d'Angleterre. J'en serais bien heureuse, j'ai gardé d'elles un si charmant souvenir. Je ne sais si vous voudriez venir passer un ou deux jours à l'Ockley. Vous vous souvenez de votre ancienne promesse ?» Et le gentilhomme rougit légèrement en formulant cette invitation qui prêta à son visage une expression un peu plus familière. « Peut-être est-il mal à moi de vous la rappeler en un moment où vous ne pensez guère à faire des visites. Ce ne serait pas une véritable visite. Mes sœurs doivent passer 5 jours à l'Ockley pour la Pentecôte. Et si vous pouviez venir à ce moment-là, puisque vous dites que vous ne comptez pas rester longtemps en Angleterre, je verrais à ce qu'il n'y eût personne d'autre là-bas. » Isabelle se demanda si cette exclusion visait la jeune fille qu'il devait épouser et sa maman, mais elle s'abstint d'exprimer cette pensée. « Je vous suis extrêmement obligée, » se contenta-t-elle de dire. « Je crains de ne pouvoir rien affirmer pour la Pentecôte. Mais j'ai tout de même votre promesse pour une autre fois. » Il y avait dans ses paroles une interrogation qu'Isabelle laissa sans réponse. Elle regarda un moment son interlocuteur et se dit, comme elle se l'était dit déjà, qu'elle se sentait attristée pour lui. « Prenez garde de ne pas manquer votre train, » recommanda-t-elle pour ajouter aussitôt. « Je vous souhaite tous les bonheurs. » Il rougit à nouveau, plus fort qu'auparavant, et consulta sa montre. « Ah oui, 6h40, il me reste peu de temps, mais j'ai un cabriolet à la porte, merci beaucoup. » On ne distinguait pas très bien si ses remerciements s'adressaient au rappel de son train ou au souhait plus sentimental. « Adieu, Mrs. Osmond, adieu. » Il lui serra la main sans la regarder, puis se tourna vers Mrs. Touchett qui revenait de leur côté. Ses adieux ne se prolongèrent pas, et un moment plus tard, les deux dames le voyaient traverser la pelouse à grands pas. « Êtes-vous bien sûr qu'ils doivent se marier ?» demanda Isabelle à sa tante. « Je ne puis en être plus sûre que lui, mais il en paraît convaincu. Je lui ai offert mes félicitations et il les a acceptées. » « Ah, j'y renonce, » dit Isabelle, tandis que Mrs. Touchett retournait vers la maison et vers les occupations qu'avait interrompu l'arrivée de Lord Warburton. Cette renonciation n'empêcha pas Isabelle de méditer le sujet, tout en se promenant sous les grands chênes dont les ombres s'allongeaient sur les plages du gazon. Après quelques minutes, elle se trouva près d'un banc rustique dont la vue la frappa bientôt comme celle d'un objet familier. Ce n'était pas simplement pour avoir déjà vu ce banc ou même s'y être assise, c'était parce que quelque chose d'important lui était arrivé en ce lieu, que l'endroit éveillait en elle des associations d'idées. Et tout à coup, elle se souvint qu'elle était assise là, 6 ans plus tôt, lorsqu'un domestique lui avait apporté de la maison la lettre par laquelle Caspar Goodwood l'informait qu'il l'avait suivie en Europe. Puis, lorsqu'elle avait levé les yeux, elle avait entendu Lord Warburton lui déclarer qu'il serait heureux de l'épouser. C'était bien véritablement un banc intéressant et historique. Elle le regarda comme s'il eût pu avoir quelque chose à lui dire. Elle n'allait pas s'y asseoir maintenant, elle en avait un peu peur. Elle restait debout, et le passé lui revint sur une de ces vagues d'émotions qui, en des moments perdus, submergent les esprits émotifs. L'effet de cette agitation lui causa une soudaine impression de fatigue qui lui fit surmonter ses scrupules à se laisser tomber sur le siège rustique. J'ai dit qu'elle était agitée et incapable de s'occuper, et que, l'ayant vu, vous ayez ou non admis le bien fondé de la première épithète, vous auriez du moins convenu qu'à ce moment-là, elle représentait l'image d'une victime de l'oisiveté. Son attitude dénotait une singulière absence de volonté. Ses mains, tombant à ses côtés, se perdaient dans les plis de sa robe noire. Ses yeux regardaient vaguement devant elle. Il n'y avait rien pour la rappeler à la maison. Les deux dames, dans leur retraite, dînaient tôt et prenaient le thé à une heure incertaine. Combien de temps elle resta dans cette position ? Elle n'eût su le dire, mais le crépuscule s'était épaissi lorsqu'elle s'aperçut qu'elle n'était pas seule. Elle se redressa précipitamment, en regardant autour d'elle, et vit ce qu'il était advenu de sa solitude. Elle la partageait avec Caspar Goodwood, qui se tenait debout, à quelques mètres, les yeux fixés sur elle, et sans qu'elle eût entendu son pas sur le terrain détrempé, quand il s'était approché. Elle songea soudain que c'était de la même façon que Lord Warburton l'avait autrefois surprise. Elle se redressa aussitôt, et dès que Goodwood comprit qu'elle l'avait vue, il s'avança brusquement. Elle avait à peine eu le temps de se mettre debout, lorsque, avec un geste que l'on eût pu taxer de violence, mais qui lui fit une indéfinissable impression, il lui saisit le poignet et l'obligea à se rasseoir. Elle ferma les yeux. Il ne lui avait pas fait mal, et c'était seulement au geste qu'elle avait cédé, mais il y avait sur le visage du jeune homme une expression qu'elle ne voulait pas voir. C'était la même qu'il avait eue l'autre jour pour la regarder au cimetière, et qui s'accusait maintenant. Il ne dit rien, tout d'abord, elle le sentait seulement tout près d'elle, presque contre elle sur le banc, et tourné vers elle de façon pressante. Elle eût dit pour un peu que personne ne s'était jamais trouvé si près d'elle. Tout ceci d'ailleurs ne dura qu'un instant, elle avait dégagé son poignet, et, tournant les yeux vers le nouveau venu, « Vous m'avez effrayé, » dit-elle. « Ce n'était pas mon intention. » Et cela n'a pas grosse importance. Je suis arrivée tout à l'heure par le train, et je n'ai pas pu venir ici tout droit. Il y avait à la gare un voyageur qui m'a devancée. Il a pris une voiture qui s'y trouvait, et je l'ai entendu dire au cocher de le conduire ici. J'ignore qui c'était, mais je ne me souciais pas de venir avec lui. Je voulais vous voir seule. Alors j'ai attendu, en errant aux alentours. J'ai fait tout le tour du parc, et je me dirigeais vers la maison quand je vous ai aperçue ici. J'ai rencontré un gardien ou une espèce de portier quelconque qui ne s'est pas étonné parce que j'avais fait sa connaissance en venant accompagner votre cousin. » Goodwood parlait très vite et se montrait aussi véhément que lors de leur dernière rencontre de Rome. Isabelle, qui avait espéré que cette agitation s'apaiserait, se contractait sur elle-même en constatant qu'il avait, au contraire, déployé toutes ses voiles. Elle éprouvait en face de lui une impression qu'il ne lui avait jamais encore produite, une impression de danger. Il y avait, à vrai dire, quelque chose de terrifiant dans sa résolution. Elle regardait droit devant elle, lui se penchait en avant, une main sur chaque genou, et scrutait ardemment son visage. L'ombre semblait s'épaissir autour d'eux. « J'ai à vous parler, répéta-t-il. J'ai quelque chose de très précis à vous dire. Je ne veux pas vous troubler comme je l'ai fait l'autre jour à Rome. C'était parfaitement inutile, et cela n'a servi qu'à vous affliger. Je n'ai pu me contenir, tout en sachant que je me mettais dans mon tort. Maintenant, je ne parle pas à la légère. Croyez-le bien. » Sa voix dure et profonde s'était adoucie un moment pour prononcer ces mots. « Je suis venu aujourd'hui avec un but précis. C'est très différent. L'autre fois, il était absurde de ma part de vous parler, tandis qu'aujourd'hui, je puis vous aider. » Isabelle n'aurait su dire si c'était parce qu'elle avait peur ou parce qu'une telle voix dans la nuit se faisait rassurante, mais elle l'écoutait comme elle n'avait jamais écouté, et ses paroles s'enfonçaient tout droit dans son cœur. Elle déterminait une sorte d'engourdissement dans tout son être, et c'est avec un effort qu'elle lui répondit. « Comment pourriez-vous m'aider ? » soupira-t-elle à voix basse, comme si elle avait pris assez au sérieux son affirmation pour poser la question sans méfiance. « En vous persuadant de vous fier à moi. Maintenant je sais, aujourd'hui je sais. Vous souvenez-vous de ce que je vous ai demandé à Rome ? À ce moment-là, j'étais dans l'ignorance complète. Maintenant par contre, je sais de sources sûres, tout est clair pour moi. Il est heureux que vous m'ayez fait partir avec votre cousin. C'était un brave homme, un noble cœur, l'un des meilleurs que l'on puisse voir. Il m'a dit où vous en étiez. Il m'a tout expliqué. Il avait deviné mes sentiments. C'était un membre de votre famille, et il vous a commis à mes soins tant que vous seriez en Angleterre, expliqua Goodwood, comme s'il avait remporté une victoire. Savez-vous ce qu'il m'a dit la dernière fois que je l'ai vu, sur le lit même où il est mort ? Il m'a dit « Faites tout ce que vous pourrez pour elle, tout ce qu'elle vous permettra de faire. » Isabelle se leva brusquement. « Vous n'aviez pas le droit de parler ainsi de moi. »« Pourquoi pas ? Pourquoi pas, puisque nous parlions de cette façon ? » demanda-t-il sans se laisser démonter. Et il était mourant. Quand un homme est sur le point de mourir, il ne considère plus les choses sous le même angle. Isabelle réprima le mouvement qu'elle avait fait pour fuir et se mit à écouter plus passionnément que jamais. Il était vrai que Goodwood se montrait différent de ce qu'elle l'avait vu à Rome. Cette fois-là, il débordait d'une passion stérile et sans objet, tandis que maintenant, il poursuivait une idée qu'elle fleurait par tout son être. « Peu importe d'ailleurs, s'écria-t-il, en la pressant de plus en plus sans toucher toutefois un ourlet de sa robe. Si Touchett n'avait pas ouvert la bouche, je n'aurais pas moins su toute la vérité. Il m'a suffi de vous regarder pendant l'enterrement de votre cousin pour deviner tout ce qui vous concerne. Vous ne pouvez plus me tromper. Au nom du ciel, soyez sincère avec un homme qui est si sincère avec vous. Vous êtes la plus malheureuse des femmes et votre mari est le plus infâme des criminels. » Elle se retourna vers lui comme s'il l'avait frappée. « Êtes-vous fou ? » cria-t-elle. « Je n'ai jamais été plus raisonnable. Je vois tout. Ne croyez pas nécessaire de le défendre. Je ne dirai plus d'ailleurs un seul mot contre lui. C'est de vous seul que je veux parler. Comment voulez-vous me faire croire que vous n'avez pas le cœur brisé ? Vous ne savez que faire ou de quel côté vous tourner. C'en est fini de la comédie. Vous avez laissé tout cela derrière vous à Rome. Touchett n'ignorait pas plus que moi-même ce qu'il allait vous en coûter de venir ici. Croyez-vous que cela doive vous coûter la vie ? Dites-le, insista Caspar avec un accent de fureur. Dites au moins une parole de vérité. Avec la conviction d'une horreur pareille, comment pourrais-je m'empêcher de vouloir vous sauver ? Que penseriez-vous de moi si je me tenais quoi pour vous regarder retourner à votre servage ? C'est affreux le prix qu'elle paiera ce voyage. Voilà ce que m'a dit Touchett. Je puis bien vous l'avouer, n'est-ce pas ? C'était un si proche parent, s'écria Goodwood, en appuyant de nouveau sur ce singulier argument. Je me serais plutôt laissé tuer que de permettre à un autre homme de me dire des choses pareilles. Mais avec lui, il en allait autrement. On aurait dit qu'il en avait le droit. C'était après son retour, quand il a compris qu'il mourait, et quand je m'en suis aperçu aussi. Je comprends tout. Vous avez peur de retourner là-bas. Vous êtes parfaitement seul, vous ne savez où aller. Vous n'avez nul lieu de refuge, vous vous en rendez parfaitement compte. C'est précisément pour cela que je veux que vous pensiez à moi. Pensez à vous ? Répéta Isabelle, toute droite devant lui dans l'ombre. L'idée qu'elle avait entrevue un moment auparavant semblait se déployer. Elle renversa un peu la tête, les yeux grands ouverts, comme pour regarder une comète dans le ciel. Vous ne savez vers qui vous tourner. Venez droit à moi. Je veux vous persuader de vous fier à moi, répéta Goodwood. Puis il se tut un moment, les yeux luisants. Pourquoi repartir? Pourquoi vous soumettre à une affreuse convention? Pour m'éloigner de vous, répondit-elle. Mais cette réponse n'exprimait qu'une partie de ce qu'elle éprouvait. Le reste, c'est qu'elle n'avait encore jamais été aimée. Elle l'avait cru, mais ceci était autre chose. C'était le vent du désert, à l'approche duquel les autres vents tombaient comme de simples bouffées venues d'un jardin. Elle s'en sentait enveloppée, soulevée de terre, et le goût même, comme une saveur puissante, âcre et étrange, en faisait de force ouvrir ses dents serrées. Elle crut d'abord qu'il allait en manière de riposte à ses paroles redoubler de violence, et au contraire, il se calma. Il voulait montrer qu'il était parfaitement maître de lui, qu'il avait bien médité sur la situation. « Je veux empêcher cela, et je crois être à même de le faire, si vous consentez pour une fois à m'écouter. Il est trop monstrueux à vous de songer à vous replonger dans cette misère, d'aller vous exposer à nouveau à cet air empoisonné. C'est vous qui avez perdu la raison. Remettez-vous-en à moi, comme si vous m'étiez confié. Pourquoi ne serions-nous pas heureux quand le bonheur est là, devant nous, quand il est si facile à atteindre? Je suis à vous, pour toujours et à jamais. Regardez-moi, je suis solide comme un roc. » De quoi vous souciez-vous? Vous n'avez pas d'enfant, ce qui pourrait peut-être constituer un obstacle. Non, vous n'avez rien qui vous retienne. Il faut sauver ce que vous pouvez de votre vie, ne pas la perdre toute parce que vous en avez perdu une partie. Ce serait vous faire injure que de croire que vous puissiez vous préoccuper de l'aventure, de ce qu'on en dira, de l'insondable ineptie du monde. Nous n'avons que faire de tout cela. Nous sommes hors du monde, nous voyons les choses telles qu'elles sont. Vous avez pris la plus grosse décision en venant ici. Les autres en découlent naturellement et n'ont plus d'importance. Je jure ici qu'une femme qu'on a fait délibérément souffrir est justifiée de tout ce qu'elle peut faire dans la vie, de descendre dans la rue si c'est un soulagement pour elle. Je sais combien vous souffrez, et c'est ce qui m'amène ici. Nous pouvons faire absolument ce que nous voulons. À qui devons-nous quoi que ce soit sous le soleil? Qu'est-ce qui peut nous retenir? Qu'est-ce qui aurait l'ombre d'un droit à intervenir dans une question qui nous regarde seule et dire « cela, c'est la résoudre » Sommes-nous nés pour pourrir dans notre misère, pour vivre dans la terreur? Je ne vous ai jamais vu avoir peur. Si vous vous fiez à moi, vous ne serez pas déçus. Le monde tout entier nous est ouvert, et le monde est très grand. J'en sais quelque chose. » Isabelle poussa un long gémissement de bête blessée, comme s'il lui eût infligé un coup douloureux. « Non, le monde est tout petit, lança-t-elle sans réfléchir, tant la pressait l'immense désir d'une contradiction apparente. Elle prononçait ces mots à l'aventure, pour s'entendre dire quelque chose, mais il ne répondait pas à ce qu'elle eût voulu dire. Le monde, en vérité, ne lui avait jamais paru si grand. Il semblait s'élargir tout autour d'elle, prendre la forme d'une mer puissante, où elle flottait sur des eaux sans fond. Elle avait demandé de l'aide, et l'aide se présentait sous forme d'un torrent impétueux. Je ne sais si elle croyait tout ce que disait Goodwood, mais elle était du moins convaincue que de se laisser aller dans ses bras serait chose presque aussi merveilleuse que la mort. Cette conviction la plongea un moment dans une sorte d'extase, où elle se sentait sombrer de plus en plus avant. Elle sentait déjà ses pieds s'agiter, comme pour trouver un point d'appui ou se rattraper. « Ah, soyez à moi, comme je suis à vous !» entendit-elle l'autre crier. Il avait tout à coup renoncé au raisonnement, et sa voix rauque et terrible semblait se dégager d'une confusion de sons plus vagues. Il ne s'agissait en tout cela, on le comprend, que de faits subjectifs, comme disent les philosophes. La confusion, le bruit d'eau, avec tout le reste, se passait dans sa tête vacillante. Elle s'en aperçut soudain. « Accordez-moi la plus grande des grâces, soupira-t-elle. Je vous supplie de partir. Ah, ne me demandez pas cela, ne me tuez pas, cria-t-il. » Elle joignit les mains, ses yeux ruisselaient de larmes. « Si vous m'aimez, si vous avez pitié de moi, laissez-moi !» Il darda un moment les yeux sur elle, dans l'ombre, puis brusquement, elle sentit ses bras autour d'elle et ses lèvres sur les siennes. Ce baiser était comme un éclair, une flamme qui s'étendait et s'étendait encore et durait indéfiniment, et l'on eût dit qu'étrangement, tandis qu'elle le subissait, elle sentait que tous les traits de sa rude virilité qui lui avaient le moins plu, que tous les détails agressifs de son visage, que sa démarche, sa présence, affirmaient leur identité et se confondaient avec cette prise de possession. Ainsi les noyés, paraît-il, suivent sous l'eau un train d'images avant de sombrer. Mais quand la nuit retomba, elle était libre. Elle ne jeta pas un regard autour d'elle et se lança éperdument. Il y avait aux fenêtres de la maison des lumières qui brillaient très loin par-dessus la pelouse. En un temps extraordinairement court, car la distance était considérable, elle avait, sans rien voir, dans la nuit profonde, atteint la porte. C'est là seulement qu'elle s'arrêta, regardant autour d'elle, étendant un moment l'oreille avant de poser la main sur le bouton. Elle ne savait pas tout à l'heure où aller, mais elle le savait maintenant. La route était toute droite. 2 jours plus tard, Caspar Goodwood frappait à la porte de la maison de Wimpole Street, dont Henriette Stackpole occupait un appartement meublé. Il avait à peine retiré la main du heurtoir que la porte s'ouvrit et que Miss Stackpole en personne se dressa devant lui. Elle portait chapeau et manteau et se préparait à sortir. « Oh, bonjour !» dit Caspar Goodwood. « J'espérais rencontrer Mrs. Osmond. » Henriette fit un moment attendre sa réponse, mais il y avait beaucoup d'expressions chez Miss Stackpole, même quand elle se taisait. « Qu'est-ce qui vous a fait supposer qu'elle fût ici, je vous prie ?»« J'ai été à Garden Court ce matin et le domestique m'a dit qu'elle était partie pour Londres. Il la croyait chez vous. » De nouveau, Miss Stackpole, cédant à un mouvement de pitié bienveillante, le tint en suspens. « Elle est arrivée ici hier et a passé la nuit chez moi, mais ce matin elle est partie pour Rome. » Caspar Goodwood ne la regardait pas et tenait les yeux rivés sur le perron. « Ah ! Elle est partie » balbutia-t-il, et sans finir sa phrase ou lever les yeux, il se détourna tout d'une pièce, mais il ne put faire un pas. Henriette, qui avait fermé la porte derrière elle, tendit la main et saisit le bras du jeune homme. « Écoutez-moi, Mr. Goodwood, » dit-elle, « sachez attendre. » À ces mots, il la regarda, et ce qu'il lut avec effroi sur le visage de Miss Stackpole, c'est qu'elle songeait qu'il était encore jeune. Elle était toute radieuse de ce pauvre réconfort qui fit peser brusquement 30 années de plus sur ses épaules, mais elle ne l'entraîna pas moins à ses côtés, comme si elle venait de lui donner la clé de la patience.